Bonjour à tous. Ce film présente le témoignage d'un conflit de travail comportant du stress et une placardisation, voire du harcèlement. C'est un cas réel. Certes, il s'appuie sur le seul témoignage de la personne qui va nous le raconter. Mais cette personne s'est efforcée de cerner avec véracité les informations qui importent en matière de relations interpersonnelles, les sentiments et les impressions telles qu'ils ont été vécues au moment des faits. Il est temps maintenant de vous présenter le héros de notre étude de cas. Voici M. Jacques C., ancien directeur commercial d'une multinationale du film d'emballage. Il a été évincé de son poste. C'est toute une histoire.
En effet, c'est toute une histoire. Vous savez, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'emballage sur des produits divers tels que papier, carton, film plastique, feuilles d'aluminium, grandement utilisés dans des domaines variés tels que les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et médicales. Un jour, j'ai été approché par un chasseur de tête qui m'avait orienté vers un employeur potentiel voulant implanter sur le marché un produit nouveau pour lui. Il arrivait après d'autres concurrents. De toute évidence, il recherchait quelqu'un qui allie connaissances techniques et commerciales pour développer ses ventes le plus rapidement possible. J'avais clairement exposé à mon nouvel employeur mon plan d'action qui consistait à convaincre mes interlocuteurs clients de tester le film, puis de développer progressivement un courant d'affaires régulier. Cela sous-entendait que, dans un premier temps, j'agirais seul, tout en songeant à m'adjoindre les services de collaborateurs permettant, plus tard, d'assurer une meilleure pénétration du marché français, l'un des plus grands en Europe. Immédiatement, le film remporta un succès mérité. Qualité générale du produit et souplesse de la structure commerciale permirent de vendre des tonnages importants, générant un chiffre d'affaires en constante progression. Mais dès les premiers mois, on me fixa des quotas que je ne devais pas dépasser. J'avais beau donner à la maison mère de précieuses indications sur les demandes de mes clients acquis, sur mes prospects prêts à commander, sur les prix de la concurrence qui nous permettaient d'accroître notre part de marché, je me heurtais immanquablement à un refus systématique. Je me fis donc à l'idée qu'il me fallait patienter pendant plusieurs années jusqu'à la mise en route de la nouvelle unité de production que la maison mère avait programmée. Cette nouvelle unité démarra enfin. Et les ventes doublèrent auprès des clients, mais elles restaient malgré tout en deçà de mes objectifs, approuvés d'ailleurs par ma direction générale. Je ne parlerai pas de mes prospects, contraints d'attendre d'être livrés. La production ne peut pas suivre, m'a-t-on répondu je ne sais combien de fois. Le temps passait. On me disait toujours « la production ne peut pas suivre », mais je n'étais pas dupe. Le ton était artificiel. Je ne savais qu'y croire. Pourquoi mon directeur approuvait-il mes objectifs alors qu'il savait sans doute que la production ne pouvait pas suivre? Il y avait manifestement un mensonge quelque part. Prudemment, je demandais systématiquement qu'on me confirme par écrit ce qu'on me disait. L'ambiance de toute la maison devenait déroutante. Mon directeur se montrait cordial, mais on sentait clairement un fond de cynisme. Comme j'avais fait le plein des ventes en quelques mois, j'ai suggéré à mon directeur général de faire un guide des ventes à l'usage de la force commerciale du département ruban adhésif, l'autre famille de produits que nous vendions. J'étais énervé par la désinvolture de la production qui livrait des quantités moindres que celles que je réclamais. Pour marquer le coup, je ne me suis pas privé d'écrire un mémo à mon directeur général pour lui préciser que sur quelques mois, c'est 380 tonnes qu'on aurait pu vendre en plus. C'est alors qu'à la fin d'une réunion que j'avais moi-même organisée entre le directeur de la production, le directeur général et moi-même, j'ai entendu la phrase suivante « La maison mère a beaucoup de contacts avec les clients français ». Vous imaginez ma stupeur. J'ai eu immédiatement la folle envie de coincer l'auteur de cette phrase et de lui demander des explications. Il est bien évident qu'après cette phrase, je me suis dit « les quotas que l'on m'impose sont purement artificiels ». Car il faut bien se dire que chaque vente que je générais apportait à la filiale des commissions substantielles puisqu'elles étaient de l'ordre de 5%. compte tenu du tonnage livré chaque fois, ces sommes importantes échappaient à la filiale française. Elles étaient récupérées par quelqu'un d'autre, obligatoirement.
Jacques est pris d'une folle envie de coincer le directeur de la production et de tout lui faire avouer. Il souffre au fond de lui d'être trompé par ses collègues. Doit-il céder à son impulsion et en découdre ? Va-t-il plutôt aller voir son directeur général et clarifier la situation ? Quels enjeux, quelles conséquences dans l'un ou l'autre cas ? En bref, quels conseils lui donner ?
J'avais une folle envie de coincer le directeur de la production et de lui faire tout avouer. Mais je pris, plus sagement, la résolution de prêter une oreille attentive à toute allusion suspecte, à toute communication téléphonique et de demander des confirmations par écrit. Ma vigilance permanente, ma détermination à démasquer les coupables, eut bientôt des résultats. La maison mère, effectivement, livrait du film à mon insu. Elle assurait des compléments de livraison à certains de mes clients, et, bien évidemment, ne se privait pas de servir copieusement les prospects que moi, je devais oublier. C'est si vrai qu'un jour, au téléphone, un prospect me répond « Je ne vois pas l'intérêt de traiter avec la filiale alors que j'achète à la maison mère. » Un matin, arriva une livraison destinée au stock de sécurité. J'avais commandé 20 tonnes. La production m'avait avisé que je ne pouvais disposer que de 15 tonnes. Le déchargement terminé, je découvris au fond du camion les 5 tonnes qu'on me refusait. Devant ma surprise, le chauffeur me dit « C'est pour le client un tel dans le Nord ». Or, un tel, c'était un prospect que je n'avais jamais pu livrer. J'ai eu le réflexe de regarder la facture. Elle portait la mention « Vente directe export ». Inutile de dire que j'en ai fait aussitôt une photocopie. Combien d'autres prospects et clients ont dû être livrés en direct, camouflés par les soi-disant quotas? Je n'ose pas y penser. Il n'était pas rare, de plus, que je reçoive pour information des doubles de courriers de relance à des sociétés françaises dont les conditions de paiement avaient été modifiées. J'ai reçu aussi, 4 ou 5 fois, sans doute par erreur, des doubles de factures de vente directe. Il y avait, de toute évidence, une belle pagaille à la maison mère. Mais je commençais à l'apprécier, car elle alimentait mon dossier de preuves. L'ambiance était toujours déroutante, mais j'en jouais maintenant en me faisant prendre pour un naïf. Face à mon roublard de directeur général, je faisais le désemparé en parlant de quotas, et il me répondait sur un ton hypocrite « Oui, mon petit Jacques, tu as raison, mais il faut patienter. » Ou sur un ton plus direct « Moi, je n'en ai rien à foutre. » À propos de la production et de ses responsables, il disait dans une franche rigolade « C'est vrai qu'ils sont bordéliques, mais ça a son charme. » Plusieurs années se passent dans cette ambiance équivoque. Mais je m'aperçois rapidement qu'on essaie de me déstabiliser. Je prends un exemple traitant du stress des cadres dans cette revue. Rien à dire. Par contre, vous voyez la flèche avec mon prénom.
Et vous trouvez cet article dans votre courrier?
Tout à fait, mais j'en trouve d'autres. Je prends au hasard. On y voit un cadre à qui on tient la main pour qu'il signe sa lettre de démission. Là encore, rien à dire. Mais on met « La direction te remercie et accepte ta démission ». Ça m'était bien évidemment adressé. Au même moment, on m'annule une commande annuelle de 800 tonnes chez un client que j'essayais de livrer depuis 6 ans. Est-ce pour ne pas faire de la peine aux concurrents, comme on me l'a dit si souvent, ou pour justifier une autre annulation de commande qui viendra par la suite? Je suis furieux et pense me révolter. Mais j'ai constitué un dossier. Ils veulent ma peau, je les attends au tournant.
Jacques se sent envahi par la colère et pense à se venger. Que faire à sa place? A-t-il bien compris la situation où il se trouve? Ses risques et ses enjeux? Est-il même en situation de prendre du recul et de réfléchir posément? De quelle aide a-t-il besoin?
J'étais vraiment furieux. mais je résistais à la tentation de me montrer violent pour ne pas me mettre en faute au regard du droit du travail. Et puis, à 58 ans, trouver du travail, c'est difficile. Le comble, c'est comment imposer à un collaborateur détaché de la maison mère pour s'occuper soi-disant des prospects jusqu'ici négligés. J'avais pourtant informé ma direction que je pouvais facilement répondre à la demande des prospects car j'entretenais avec eux de bonnes relations. Et du même coup, augmenter le chiffre d'affaires sans frais commerciaux supplémentaires. Réponse. On s'en fout, c'est la maison mère qui paie. On m'imposait donc ce collaborateur et loin de me seconder, cet intrus prenait mon travail puisqu'il contactait mes clients. Comble de machination, je reçus un coup de fil. « Allô, je voudrais parler à Monsieur R, responsable du marché français. »« Ah non, c'est moi, Jacques, le responsable du marché français. »« Ah non, pas du tout, c'est Monsieur R. Et d'ailleurs, moi-même, je suis embauché pour l'aider en France. » On me retirait jusqu'à mon titre, je devais m'attendre au pire, je contactais la CGC qui me donna une liste d'avocats.
Deux ou trois mois après, on m'annonce que je vais être licencié pour motif économique. Alors là, je demande des explications. Pour motif économique, alors qu'on embauche. Et puis, mes clients qui ne sont livrés que partiellement, sans compter les prospects qui n'ont jamais été livrés. Alors là, on prend un ton paternel. Je n'ai rien à craindre, compte tenu des indemnités que je vais toucher. Je suis licencié pour restructuration, si l'on en croit la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors qu'on parle de licenciement économique sur la lettre terminale de licenciement. Paradoxalement, on me dresse des éloges sur toutes les années que j'ai passées et de mes performances optimum. J'ai 58 ans et 9 ans d'ancienneté.
Jacques est licencié et en même temps on lui fait des compliments sur sa performance. Tout un paradoxe en effet. Qu'en penser? Quel conseil lui donner? Est-il temps de faire quelque chose? Si oui, quoi? Avec l'aide de qui?
Je décidai de porter l'affaire en justice, fort des 51 pièces de mon dossier. Ces 51 pièces couvraient 4 ans de vigilance et l'appui de mes clients, car je profitais de mon préavis pour les informer tous et recueillir des témoignages de surprise que certains m'ont donnés spontanément. L'un d'eux m'a même rapporté cette remarque de mon remplaçant, « Jacques a bien travaillé, il peut se reposer, d'autant plus que sa femme est médecin. On imagine le poids que ce seul témoignage aura auprès du tribunal. » Mon avocat était formidable. Je me souviens encore très bien des termes de sa plaidoirie.
Monsieur le Président, Monsieur C, mon client, a été embauché par la société M France après avoir démissionné de son précédent emploi. Précédent emploi duquel il a d'ailleurs été débauché par la société M France, qui a apprécié chez Monsieur C ses qualités, ses compétences et le carnet d'adresses bien rempli que celui-ci s'était constitué au sein de son précédent emploi. Chez son dernier employeur, il travaillait dans la filiale d'une multinationale pour commercialiser des films d'emballage et exercer la responsabilité de directeur commercial marketing sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, s'il se tient devant vous, c'est parce qu'il s'estime victime d'une manœuvre pernicieuse ayant visé à le faire quitter son emploi, ayant visé à le décourager, à le frustrer et à finir par l'acculer à la faute afin qu'il puisse être licencié. Monsieur C n'ira pas jusque-là. Néanmoins, aujourd'hui, il est licencié et c'est parce qu'il conteste son licenciement que cette affaire se présente aujourd'hui devant vous. Licenciement contestable à bien des égards, par son irrespect de la procédure d'abord, par son caractère inique ensuite. Je ne m'attarderai pas sur la question de la procédure, elle a déjà été longuement développée en première instance et dans les écritures qui vous ont été déposées. D'ailleurs, dans cette lettre de licenciement, on ne compte plus les appréciations élogieuses à l'égard de Monsieur C. J'en ai souligné quelques-unes, je vous en cite une. La collaboration de Monsieur C a toujours été optimum. Optimum. Cela veut dire que Monsieur C ne pouvait faire mieux. Et pourtant, il est licencié. Mais ce n'est pas le seul élément qui nous démontre les manœuvres employées par la société. L'une d'elles est particulièrement intéressante. Dès son embauche, on a demandé à M. C de modérer ses ventes. Il avait, en salarié consciencieux qu'il était, chiffré des objectifs ambitieux, objectifs toujours acceptés par la société. Mais peu de temps après, on lui demandait de modérer ses ventes au motif que la production ne suivait pas. Nous avons versé au dossier les notes de l'employeur qui font mention de ces directives visant à freiner les tonnages, les quantités. Une de ces notes, je cite, « Surtout, ne vendez pas plus de 50 tonnes par mois ». Malgré tout, M. C, grâce à ses relations, a malgré tout fait progresser les ventes, en dépit des restrictions. Toutes ces ventes étaient en progression positive. Nous avons étayé ces faits en versant les pièces justificatives au dossier. Et je m'en réfère donc sur ce point à mes écritures. La véritable raison de la présence de M. C aujourd'hui ici, c'est qu'il a été licencié et qu'il estime son licenciement injuste et inique. Il a clairement le sentiment que son licenciement a été programmé. Programmé car, depuis un certain temps, on avait dressé une liste des clients qui devaient être accaparés en priorité par d'autres salariés qui viendront, on le verra, remplacer M. C, malgré lui, et de manière parfaitement injuste et injustifiée. On explique en effet à M. C que la suppression progressive, la réduction progressive de l'activité de la filiale dont il a la gestion s'explique pour des raisons diverses, commerciales, financières. En réalité, dans cette filiale, on embauche. On embauche sans prévenir M. C, naturellement, et on embauche même à son poste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, quelques temps avant la date du licenciement de M. C, deux personnes effectuaient le travail de M. C. Cette deuxième personne, M. R, est en effet arrivée un jour dans la société, dans la filiale, en annonçant qu'elle allait aider M. C à développer le marché, au motif que l'usine se serait agrandi et la production aurait augmenté. Or, les calculs de M. C prouvaient que, sans frais supplémentaires, les ventes jusqu'ici en réserve, puisque non livrées jusqu'à présent, allaient générer de manière spectaculaire des commissions de fonctionnement. Il n'y avait donc aucune justification à l'embauche de ce second salarié, si ce n'est de pousser M. C à quitter l'entreprise. Aujourd'hui, mon client, M. C, est donc un homme qui a été licencié alors qu'on n'avait rien à lui reprocher. Au contraire, on lui a même fait des éloges dans sa lettre de licenciement. On peut s'étonner dans ce cas d'avoir des documents signés de la main du directeur général de la filiale et qui font part de commentaires tout à fait déplacés à l'encontre de mon client. Toutes ces manœuvres que je viens de vous montrer, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour, montrent de toute évidence qu'on a essayé de déstabiliser mon client, souhaitant sans doute qu'il réagisse de manière violente, incontrôlée, ce qui évidemment le mettrait en difficulté et pourrait justifier un licenciement pour faute grave. Je ne ferai pas l'injure à la Cour de lui expliquer tout le bénéfice retiré par la société d'un licenciement pour faute grave, au vu des années d'ancienneté de mon client. C'est un stratagème, une vaste manœuvre dans laquelle la Cour ne pourra tomber. Et aujourd'hui, Monsieur C, 58 ans, scandaleusement licencié et sans espoir de retrouver un travail. Pourquoi ? Imaginez un instant la réaction d'un des dirigeants ou d'un recruteur d'une entreprise exerçant dans le même domaine. Alors, Monsieur C, vous avez été licencié pour motif économique ? Parce que, au vu de ce que vous me dites, on ne vendrait plus de... Mais c'est bizarre, parce que moi, je continue à en acheter. Du... Vous mentez, monsieur C. Vous mentez. Vous avez certainement été licencié pour autre chose. Aucun espoir pour monsieur C de retrouver un emploi dans ce secteur ultra spécialisé de l'emballage. Aujourd'hui, monsieur C conteste son licenciement et demande à la cour de prêter une attention particulière à ses demandes concernant notamment ses indemnités licenciement.
Vous nous avez fait revivre la plaidoirie de votre avocat. Quelle a été, s'il vous plaît, la conclusion de la justice ?
Le conseil des prud'hommes a suivi les conclusions de mon avocat, mais obstiné, mon ex-employeur a fait appel. S'il y a ne pas manqué, il n'assistera à aucune des audiences. Il a été condamné sur tous les points. Son défenseur se verra même poser la question suivante, après la plaidoirie des avocats, mais avant la délibération et à plus forte raison, avant le jugement, chose exceptionnelle au dire de mon avocat. Cette question était la suivante. Êtes-vous prêt à payer à la partie adverse les sommes réclamées ? Un oui à peine perceptible traduisait l'embarras de l'avocat, manifestement gêné d'avoir eu à accepter un tel dossier auquel il ne croyait sans doute pas. Inutile de dire qu'entre-temps, les dommages d'intérêt que j'avais demandés ont été multipliés par deux. J'ai finalement gagné, mais toutes ces procédures, 3 ans, c'est vraiment long, très long. Entre-temps, je n'avais pas perdu mon temps, puisque 2 de mes anciens clients m'ont demandé de faire 2 longues études sur leurs propres produits. C'est après cela que j'ai pris ma retraite.
Une retraite bien méritée. Et nous vous remercions chaleureusement de nous avoir raconté cette mise à l'écart progressive, ce conflit de plus en plus violent, ce harcèlement pour finir. Sans parler du dossier que vous avez rassemblé, ni du dénouement judiciaire. Vous avez été particulièrement tenace. C'est une leçon pour nous. Et nous vous en remercions encore.